Chapitre 27. Le camion s'avança lentement sur le pont, Moram au volant, Solman à son côté. Jack n'avait pas protesté lorsque son équipier s'était assis sur le siège du conducteur. Les règles tacites donnaient pourtant la préséance au chauffeur titulaire pour le franchissement de passage qui requérait de l'expérience et une connaissance parfaite de leur véhicule. Mais cette entorse avait laissé Jack de marbre. Solman avait décelé en lui la forme d'apathie caractéristique de ceux qui s'éloignent d'eux-mêmes pour tenter d'échapper à leurs propres obsessions. Et là, l'ancienne s'était ainsi claquemurée pendant près de 50 ans dans une bulle d'insensibilité. Se fermer à soi-même était la seule façon de fuir les démons qu'on refusait de regarder en face. Et une chimère. Les démons attendaient patiemment leur heure pour ressurgir de l'oubli. Impitoyable, repu de tous les souvenirs refoulés. Pendant que Moram effectuait les premières manœuvres, les yeux de Solman avaient erré sur les 1500 membres du peuple aquariote massés de chaque côté de l'entrée du pont. Mayel avait déserté la voiture et laissé Ismaïl seul avec Khadija. Il l'avait aperçu dans la multitude, ainsi qu'Irwan, Guenuver, Raïma, Glenn, et quelques têtes qu'il connaissait. Adeline, la jeune femme qui avait perdu son bébé lors de l'attaque du relais de Galice, ou encore Isbel, la sœur de Rilvaux, l'homme que les membres du conseil avaient chargé d'assassiner Raïma. Même s'il avait déjà rencontré la plupart des autres, il aurait été incapable de leur donner un nom. Il avait grandi à côté d'eux, pas avec eux. Pendant 13 ans, entre la mort de ses parents et ses 18 printemps, les pères et les mères du peuple l'avaient tenu enfermé comme un animal fabuleux, comme un butin réservé à leur seul usage. Puis, après que Raïma avait ouvert la cage, les événements s'étaient précipités à une telle cadence qu'ils n'avaient pas eu le temps de parler avec les aquariotes, de partager leurs inquiétudes, leurs peines, leurs soucis, leurs chants et leurs rires. Tu seras toujours seul, tu rencontreras toujours la peur et la haine autour de toi. Lorsqu'elle avait prononcé ces paroles, Elaine l'ancienne avait eu la lucidité implacable de ceux que le désespoir a dépouillés de toute illusion. Il était condamné à la solitude parce que les autres n'acceptaient pas encore, de se contempler dans un miroir qui les révélait tels qu'ils étaient et non tels qu'ils se figuraient être. Personne n'aime être placé devant le miroir de la vérité. Il avait fallu près de 50 ans à Elaine pour vaincre ses démons et consentir à se regarder en face. Mais elle avait trouvé le courage de le faire, alors que pendant des millénaires, l'humanité avait poursuivi des mirages qui l'avaient coupée d'elle-même et conduite à sa perte. Au milieu du pont, il y eut une série de craquements. Quelques pierres des vestiges du parapet dégringolèrent au fond de la gorge, se plantant dans le fleuve de lave comme dans une boue épaisse. En sueur, Moram se retint à grand-peine d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour en finir au plus vite avec cette traversée de cauchemar. La moindre accélération, la moindre secousse, pouvait avoir des conséquences catastrophiques sur l'antique construction. L'une des seules à s'être sortie pratiquement indemne du conflit qui avait ravagé la terre un siècle plus tôt. La fumée montant de la lave s'épaississait de plus en plus et répandait une odeur fétide de gaz. Moram poussa un long soupir de soulagement lorsque le train avant du camion cessa de vibrer sur les pavés et mordit le verglas à moitié fondu qui habillait la piste encaissée. Il rétrograda et accéléra progressivement pour éviter de patiner sur les premiers 20 mètres de faux plat. Puis il roula un petit moment entre les parois vertigineuses, dont certaines saillies se rejoignaient plus haut, au point de former des arches. Il a supporté le poids d'un camion. Mais est-ce qu'il supportera les autres ? Soupira-t-il après avoir coupé le moteur. Le peuple aquariote se scinda en deux. Les uns choisirent de traverser à pied en portant sur l'épaule des sacs de vivres, des couvertures et des produits de première nécessité. Les autres, les plus nombreux, préférèrent attendre et conjurer le risque de se retrouver sans véhicule, sans voiture, sans abri, et cela même s'ils savaient que la coulée de lave en coupant la piste interdisait tout retour en arrière. Irwan, Guenuver, Raïma et Glenn, à son corps défendant, faisaient partie de ceux-là. Mais pour les trois premiers, il s'agissait avant tout d'affirmer leur désaccord avec le donneur et de contraindre leurs partisans à se déclarer. Une trentaine de camions passèrent sans autre difficulté que des grincements alarmants et de nouvelles chutes de pierre. Chaque fois que l'un d'eux atteignait l'autre bord, des hommes, des femmes et des enfants se détachaient du groupe resté en arrière et, silencieusement, avec une sorte de réticence dans la démarche, venaient grossir les rangs de ceux qui avaient déjà traversé. Puis un chauffeur, gagné par l'affolement, commit l'erreur de donner un brusque coup d'accélérateur au milieu du pont. Les hoquets du camion, de la voiture et de la remorque se transmirent à l'ensemble de l'ouvrage, dont le tablier se lézarda et parut sur le point de se disloquer. Au lieu de continuer sur sa lancée, le chauffeur appuya de tout son poids sur la pédale de frein. Les roues arrière dérapèrent aussitôt sur les pavés glissants, et le véhicule partit dans un travers que l'étroitesse du passage lui interdit de corriger. La remorque escalada les vestiges du parapet, fut happée par le vide et entraîna la voiture dans sa chute. La tâche qui reliait cette dernière à la citerne céda dans un craquement bref, mais cela n'empêcha pas le camion, emporté par son élan, de basculer à son tour dans le précipice. Les aquariotes le virent s'écraser 50 mètres plus bas, dans un éclaboussement rougeoyant.
« Reculez-vous !»
hurla Moram.
« Son réservoir va exploser !»
Il avait à peine lancé son avertissement qu'une déflagration secoua le fond de la gorge, souleva une gerbe de morceaux de lave, de verre et d'éclats métalliques dont quelques-uns fusèrent au-dessus du pont. L'écho sourd de l'explosion se prolongea entre les parois resserrées, décrocha les stalactites de glace qui avaient résisté à la chaleur, se perdit dans les volutes de fumée noire qui s'échappaient de la carcasse enflammée. « Ce crétin a tout foutu en l'air !» gémit Moram. « Il est mort !» fit Solman d'une voix sèche. « Et je ne connais que des crétins vivants. Allons plutôt voir si le pont est encore en état. » La construction tenait bon. Les lézardes du tablier, bien que profondes, avaient épargné les pierres taillées du cintre, et les vibrations n'avaient pas endommagé les culées qui reposaient sur des éperons rocheux renforcés par des massifs de maçonnerie. Solman ne chercha pas à savoir de quel bord venaient les cris de désespoir qui transperçaient le silence funèbre retombé sur les lieux. La femme du chauffeur, sans doute, ou sa promise. Il lui avait semblé entrevoir un visage jeune derrière le miroir imparfait du pare-brise. En revanche, il ne pouvait ignorer les regards haineux qui lui léchaient la nuque et émanaient des deux côtés à la fois. Les aquariotes mettaient la mort de cet homme ainsi que l'attaque des sauterelles et l'éruption volcanique sur le compte de son incompréhensible obstination à les guider dans les déserts glacés de l'hiver du Nord. « Ça devrait pouvoir passer, » dit Moram. « Mais les chauffeurs accepteront-ils de prendre le risque ?» demanda Solman. « S'il refuse, je m'en chargerai. » Solman contempla les restes fumants du camion qui s'enfonçait peu à peu dans la lave. Le vent dispersait les odeurs de gaz et de soufre. Le froid revenait s'installer en maître après le court interlude de la colère volcanique. « C'est pas ta faute, donneur, » murmura Moram dans son dos. « Si ce crétin, pardon, si Frink n'avait pas perdu la boule, il serait encore en vie. Tu me l'as dit toi-même il y a 2 jours. C'est moi qui vous ai foutu dans cette merde, c'est à moi de vous en sortir. Je continue à croire en toi, donneur. Moram désigna le fond de la gorge. Lui, n'y croyait plus. Voilà pourquoi il est mort. Solman se retourna avec vivacité et enfonça son regard dans celui du chauffeur. « Je ne suis qu'un homme, Moram. Je ne te demande pas de croire en moi, mais en toi. En moi ? Je ne lis pas dans l'âme des gens, moi. Je ne vois pas au-delà de ce que perçoivent mes yeux. Je ne sais que me raser de haut en bas, conduire les camions et baiser les femmes. Tu vaux mieux que ça, et tu le sais. Mais Solman haussa les épaules. À quoi bon poursuivre cette discussion? Les mots étaient impuissants à changer les réflexes forgés par des millénaires d'habitude, d'inertie. Mais quoi?
Rien.
Il y a une ancienne ville en bon état à 20 kilomètres de là. Nous pourrons nous y abriter jusqu'au retour du printemps. Moram hocha la tête avec un large sourire qui étira les rides de ses tempes jusqu'en haut de son crâne. Trois chauffeurs seulement acceptèrent de prendre le volant des 40 camions alignés sur le bord de la gorge. Moram, Chuck et un ancien du nom de Josa. Les autres se contentèrent d'avancer les véhicules déjà engagés sur la piste pour leur faire de la place. Le pont donna des signes de faiblesse, perdit quelques-unes de ses pierres, agrandit ses lézardes, émit des grincements et des gémissements qui annonçaient un effondrement proche, mais il supporta le poids des camions, comme s'il avait été conçu des siècles plus tôt dans le seul but de rendre ce service aux derniers humains. À aucun moment, les trois hommes ne perdirent leur sang-froid, même quand les pavés se dérobèrent sous leurs roues et ajourèrent un tablier de plus en plus friable. Ils roulèrent au ralenti, évitant les saccades et les coups de volant intempestifs, choisissant les passages les plus denses, les plus solides. Chuck se fit une petite frayeur quand les roues de la voiture qu'il tractait frôlèrent dangereusement le vide, mais il redressa sa trajectoire en douceur et gagna le bord opposé sans encombre. Lorsque la majorité des véhicules fut en lieu sûr, les derniers aquariotes regroupés autour d'Irwan et de Raïma, Guenuver s'était jointe depuis un bon moment à une famille qui avait suivi sa voiture, condescendirent à rejoindre les autres. Les nombreuses failles dans le tablier leur compliquèrent la tâche, et si un garçon agile comme Glenn s'en sortit avec une relative aisance, la traversée revêtit pour les plus âgés l'allure d'une véritable épreuve. Une fois que passagers et chauffeurs furent réinstallés dans les voitures et les cabines, les 70 camions du convoi s'élancèrent sur la piste ouverte comme une blessure entre les massifs montagneux.
« Elle est où, cette putain de ville ?»
gronda Moram, qui partageait la banquette passager avec Solman. La nuit tombait. Déjà ralentis par le verglas et le mauvais état de la piste, ils avaient perdu 2 heures à déblayer un virage obstrué par des rochers qu'on avait dû remuer à l'aide de leviers, puis 1 heure supplémentaire à tronçonner un grand sapin couché en travers et enseveli sous des tonnes de terre et de neige tassée. La ventilation du chauffage ne suffisait pas à repousser le froid qui s'infiltrait dans les fêlures du pare-brise et sous leurs vêtements. Les faisceaux des phares ricochaient sur un mur de brume givrée, scintillante, aveuglante.
D'après le compteur, on a pratiquement fait 25 kilomètres, reprit Moram, irrité par le mutisme du donneur. Et tu m'as bien dit qu'elle se trouvait à 20 kilomètres du pont.
Solman commençait également à s'inquiéter. Sa vision lui avait montré un nid d'aigle perché au-dessus d'une zone dégagée, d'un espace qui ressemblait à un plateau, et la piste se traînait dans les profondeurs d'un paysage accidenté, sans autre perspective que des parois verticales, comme coupées de haut en bas par une lame monstrueuse. Moram revint à la charge.
« Va faire -20 cette nuit. On ne peut pas se servir du chauffage parce qu'on risque de manquer de gaz. Il y en a quelques-uns qui ne verront pas le lever du jour.
Tu pourrais pas boucler de temps en temps ta grande gueule ?» soupira Chuck.
Moram lui décocha un regard meurtrier.
Arrête dans le camion, Chuck. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de m'expliquer avec toi.
T'attendras qu'on soit arrivé. T'es pas le...
Chuck se tut. Moram avait tiré son revolver, déverrouillé le cran de sûreté et lui avait posé la bouche du canon sur le cou. Les lueurs chétives du tableau de bord soulignaient ses traits déformés par la colère.
Il y a des choses qui peuvent pas attendre.
Tu penses sans doute qu'on n'a pas encore eu notre compte de mort depuis...
Arrête tout de suite ce putain de camion !
Rugit Moram, les yeux hors de la tête, le doigt crispé sur la détente.
Continue, Chuck,
intervint Solman.
Te mêle pas de ça, donneur !
Je me fous de vos histoires. La ville ! On est arrivé !
Au sortir d'un long tournant, le camion avait débouché sur une étendue plane, dégagée, bordée d'un côté par la masse sombre d'une forêt, surplombée de l'autre par une muraille rocheuse dont le sommet se hérissait de formes découpées qui évoquaient une succession de toits. Un vent violent soufflait par rafales, écharpait la brume, arrachait leur neige aux rochers et aux arbres. À contre-cœur, Moram remisa son arme dans la poche de sa veste. Les phares débusquèrent une piste secondaire qui partait sur la droite et piquait vers le bas de la muraille. « Suis-la !» dit Solman.
« Je veux bien, mais je vois pas comment on pourrait grimper là-haut avec les camions, » objecta Jack.
« Si les engins militaires y réussissaient, il n'y a aucune raison qu'on n'y rêve pas. »«
De quels engins militaires tu... »
Jack n'alla pas au bout de sa question. La réponse se trouvait devant lui, apportée par les phares. Un cimetière de carcasses à demi recouvertes de neige s'étalait au pied de la muraille. Chars, camions, jeeps, coptères, entassés les uns sur les autres dans une profusion de métal cabossé, froissé, rouillé. La Troisième Guerre mondiale était venue jusqu'ici, dans ce coin perdu du massif central. Des batailles importantes s'y étaient déroulées, à en juger par le nombre d'engins, par la présence de ce fortin niché en haut de la paroi.
« En tout cas, les plantes bouffeuses de fer, elles, n'ont pas été invitées au gueuleton, » lança Jack.
« Elles s'inviteront tôt ou tard, » dit Solman.
« Comment tu peux en être si sûr ?»«
Elles ne sont pas apparues par hasard. Elles ont une mission, débarrasser la Terre de tous ces déchets métalliques.
Hé, t'en parles comme de soldats,
comme si elles avaient reçu des ordres, » intervint Moram. Il avait décidé de mettre sa rancœur de côté. Pour l'instant. L'occasion se présenterait tôt ou tard de coincer Jack et de lui asséner quelques vérités bien senties sur le nez et dans le ventre. Et puis, le froid qui régnait dans la cabine et gelait ses gros doigts amoindrissait ses facultés et ne se prêtait pas à une explication dans les règles.
« Tout est lié, » répondit Solman.
« Elles appartiennent à la même armée que les chiens, que les slangs, que les sauterelles. »
« Stupide !» lâcha Moram. « On peut, à la rigueur, commander aux slangs, dresser les chiens, mais les plantes. »«
Stupide pour qui ?» coupa Solman.
« Nous ne connaissons pas toutes les formes de langage. Les plantes ne parlent pas. Ou alors, ça nous ferait un sacré raffut. »«
Je ne te parle pas de ce langage-là.
Lequel, alors ?»
Solman haussa les épaules et observa la muraille lisse balayée par les phares.
« Peut-être le langage du cœur de la matière ?»
finit-il par répondre d'une voix morne. La piste coupait par le cimetière d'engins profond de 200 à 300 mètres. La couche de neige accumulée par le vent s'épaississait de plus en plus, au point d'atteindre pratiquement la hauteur d'un homme, de céder sous les roues et de bloquer la progression du camion. Jack actionna la sirène à 3 reprises afin de prévenir les autres qu'un obstacle se présentait devant lui.
« Va falloir qu'on dégage cette merde, » maugréa le chauffeur.
Les pelles et les seaux étaient des outils dérisoires pour déblayer une telle masse de neige à la seule lueur des phares du camion de tête. Et même si plus de 500 hommes et femmes s'attelèrent à la tâche, Solman à leur tête, la corvée leur prit une bonne partie de la nuit. Le vent hurlant transperçait les bonnets, les gants, les vêtements, engourdissait les membres, projetait des éclats de glace et de neige mêlés dans les yeux. Quand la piste fut enfin dégagée, qu'ils découvrirent la bouche d'un passage creusé directement dans la roche, ils étaient tellement épuisés qu'ils n'eurent pas d'autre envie que d'aller se reposer dans les camions et les voitures. Solman hésita un moment devant la porte de la voiture de Mayel et des deux Albins. Puis, exténué, la jambe gauche tétanisée, il renonça à les déranger et retourna dans la remorque qui lui servait de chambre et dont il dut rafistoler sommairement la bâche défoncée par la congère. Il lui fallut également remettre un minimum d'ordre, nettoyer son matelas et ses couvertures des traces de neige, mais même en gardant sa tunique et son pantalon de cuir, il ne parvint pas à chasser le froid qui le mordait jusqu'aux os, ni la douleur à sa jambe torse. Il resta éveillé, aux prises avec une grande lassitude morale et physique, jusqu'à ce que les premières lueurs du jour s'infiltrent par les interstices de la remorque et tombent en rayons désordonnés sur les ustensiles et les rouleaux de tissu épars. Il se leva, passa la canadienne fourrée, enfila ses gants, ses bottes, poussa le haillon et sortit dans l'air congelé de l'aube. Le vent avait cessé de souffler. Le ciel était d'un blanc métallique, éblouissant. La caravane s'étirait comme un serpent engourdi sur la piste. Il ne décela aucun mouvement, aucun bruit, rien. Pas même un murmure, pas même un craquement ne troublait le silence figé. Le givre et la lumière s'enchevêtraient en rosaces complexes et fascinantes dans le cimetière d'engins. Il longea le camion de tête, enjamba les pelles et les seaux abandonnés sur place, et franchit la bouche d'entrée du passage. À première vue, le tunnel, consolidé par des poutrelles de béton, était assez large pour accueillir le convoi, et sa pente, bien qu'accentuée, paraissait tout à fait franchissable par les camions. Puis, alors qu'il s'enfonçait dans le cœur de la roche, il lui sembla percevoir des hurlements dans le lointain. Il ne résonnait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. Appuyé contre la paroi, il oublia la douleur à sa jambe et la fatigue d'une nuit de veille pour plonger en lui-même et élargir son champ de vision. La sensation l'effleura de milliers de formes sombres déferlant sur une plaine enneigée. Les légions de l'Apocalypse. Elles étaient en marche, et, ainsi que l'avait affirmé le prêtre Bakou, elles se refermaient sur les derniers hommes comme les pinces d'un crabe.